Ben.
Dans ce journal, on s'intéresse au secteur aérien avec un nouveau patron pour ATN, des travaux à l'aéroport de Fa et un renouveau aux Marquises. On vous parle aussi de syndicats et de faits divers. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal par cette officialisation.
Oui, c'était attendu, c'est désormais officiel. Philippe Marié est le nouveau patron d'ATN. La compagnie l'a officialisé ce matin.
Aérien toujours avec ses grands travaux à Tahiti Fa.
Oui, ce ne sont pas encore les grands travaux de modernisation de l'aéroport attendus depuis des années, mais c'est un début. Les responsables d'ADT ont détaillé ce matin les travaux dits de transition qui sont discutés depuis de longs mois entre la filiale d'Aegis, l'État et l'aviation civile. L'accord a finalement été signé la semaine dernière et le chantier sera lancé ces jours-ci. Première étape, la réhabilitation de la façade de Tahiti Fa. Une longue frise préparée avec le centre des métiers d'art devrait habiller dès le début juin toute la longueur du terminal côté parking. Ce n'est qu'après les Jeux Olympiques que seront lancés les deux autres opérations, la création d'une nouvelle bretelle entre la piste et la base militaire qui permettra de libérer de la place pour le stationnement des ATR, mais aussi une rénovation majeure de la salle d'embarquement domestique qui devrait être terminée fin 2025. Pas que de l'esthétique donc et surtout de gros investissements comme le précise le directeur d'ADT.
Alors c'est ADT qui finance en effet ces investissements, donc on a 1,8 milliard dans les deux prochaines années, on a à peu près 1,6 milliard aussi d'investissements courants qui vont se faire, et donc tous ces investissements sont portés par ADT, mais font l'objet d'une reprise en effet si demain une nouvelle concession se met en place. Donc là c'est un accord qui est fait avec l'État ADT en lien aussi avec le pays pour qu'on puisse faire ces investissements, parce que n'ayant pas de terme de concession aujourd'hui, il aurait été difficile pour nous d'investir sur une visibilité à deux ans. Donc c'est vraiment un travail en commun qui a été fait avec le pays, avec l'État là-dessus pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients.
Gwen Vael, Ronsin Hardy qui précise bien, vous l'avez entendu, que la plateforme de Tahiti Fa manque encore de visibilité sur le renouvellement de sa concession. ADT, filiale d'Aegis, dans laquelle le pays est actionnaire, est aux commandes depuis bientôt 15 ans. Mais d'appels d'offres en procédure judiciaire, on ne sait toujours pas qui va gérer et moderniser l'aéroport dans les 40 prochaines années. Le nouvel appel d'offres est notamment en préparation du côté de l'État. Et s'il y a eu encore quelques mois de retard, du fait notamment d'une saisie du Conseil d'État pour précision juridique, c'est avant tout par prudence. On écoute le secrétaire général du Haut-Saria, Xavier Marotel.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche à bien sécuriser l'ensemble de la procédure pour avoir quelque chose qui soit complètement robuste s'il devait à nouveau y avoir un contentieux comme ça a été le cas la dernière fois. Donc on travaille vraiment main dans la main avec le pays pour avoir une procédure qui est complètement sécure pour qu'à horizon fin 2026, fin 2027, on ait bien notre concession renouvelée et qu'on puisse après dérouler la vie normale de l'aéroport sans rester dans cette phase un peu d'entre-deux, d'attente qu'on a connue ces dernières années.
Voilà, Xavier Marotel qui revient aussi sur l'affaire des tarifs d'ADT. On vous en a parlé plusieurs fois, le concessionnaire actuel a cherché à augmenter drastiquement sa grille de redevances aéroportuaires. Levée de bouclier des compagnies, où l'on rappelle que la fréquentation record de 2023 avec 1,7 million de passagers à Tahiti Fa, eh bien elle a déjà permis d'engranger de belles recettes. L'État a ensuite refusé d'homologuer ses nouveaux tarifs.
On leur a demandé de revoir la copie parce que on pensait, nous, côté État, mais c'est donc la direction des transports aériens, de la direction générale de l'aviation civile à Paris, qu'on n'était pas tout à fait dans l'épure de ce qu'on devait être. Voilà. Les discussions sont en cours. Ça arrive ailleurs. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est aussi le jeu normal des discussions entre une autorité de régulation qui joue son rôle de réguler et un concessionnaire qui voit son résultat économique, ses dépenses. Enfin, c'est quelque chose qui est normal aussi. Je veux rassurer les gens. Ça n'a rien de problématique ou d'inquiétant.
Des propos recueillis par Charlie René.
On s'envole maintenant pour les Marquises, Valdemar, où l'aéroclub Jacques Brel revit à Ivao.
Oui, la structure était en sommeil depuis 2017, faute d'avion. Mais depuis le début de l'année, les passionnés de la Terre des Hommes ont fait l'acquisition d'un nouvel appareil, un Cessna 172 qu'il a fallu convoyer. L'association s'est donc restructurée. Elle compte aujourd'hui 35 membres, dont au moins la moitié sont de nouvelles têtes. Et avec l'arrivée du nouvel avion, conjugué à celle d'un instructeur, les formations ont pu reprendre. Et malgré de nombreux dossiers administratifs à boucler, l'aérodrome a retrouvé des couleurs. Les explications de Vincent Roche, mécanicien de formation et président de l'aéroclub, c'est sa société qui a fait l'acquisition du Cessna destiné à voler au-dessus de l'archipel.
On a quelques petits travaux d'aménagement aussi pour les salles de cours à prévoir, notamment pour ouvrir un brevet d'initiation aéronautique pour les jeunes marquisiens de l'île. Donc je dirais que c'est plutôt des travaux d'aménagement d'ordre général, d'ordre de locaux et un petit peu administratif.
Et ils sont déjà 5 à suivre des formations, dont 2 jeunes mineurs. Des cours dispensés par un instructeur, donc, qui devrait être présent 8 mois par an à Hivaoa, en attendant l'arrivée d'un second professionnel. L'objectif est désormais de créer du lien entre les îles en apprenant le pilotage aux personnes qui ont besoin de se déplacer rapidement, et notamment à certains professionnels aux compétences recherchées.
Tous les secteurs professionnels sont obligés de faire des sauts de puce. Il n'y a pas assez de volume de personnes sur une île pour pouvoir s'attendre à voir se développer un vétérinaire, par exemple, ou des professions un petit peu plus spécialisées. J'entends par exemple la médecine ou des frigoristes qui se baladent pas mal. On a aussi des géomètres qui vont d'île en île. Et le transport public ne peut pas toujours répondre à leurs demandes et à leurs déplacements. Donc là, l'intérêt, ce serait de former ces professionnels à l'aviation générale pour qu'ils puissent se déplacer et couvrir l'ensemble de l'archipel.
Et l'aéroclub souhaite donc également rayonner un peu partout sur les Marquises. Pour cela, il faudra acquérir un appareil un peu plus puissant pour se poser sur le très technique Altiport de Wapao, un avion qui ne sera pas pour tout de suite, peut-être d'ici 3 ans si les finances du club se portent bien. Et l'autre gros projet, c'est de développer une piste sur une autre île de l'archipel. Écoutez.
Nous sommes en train de réfléchir pour ouvrir une piste en aviation générale à Fatuiva. Donc ce serait une première. Il y a une zone dans le sud de l'île qui est exploitable. Nous avons relevé 650 mètres de piste que nous pourrions faire pour le moment une piste en herbe ou en gravier, si tu veux. Et ensuite, on verra ce que l'avenir nous donnera. Mais voilà, on a ce projet-là aussi de rayonner jusqu'à Fatuiva.
Et là aussi, c'est une idée qui demandera du temps et de nombreux dossiers administratifs à monter. Vincent Roche parle d'un projet qui démarre à petite échelle, mais qui pourrait prendre de l'ampleur selon son évolution. Une exploitation publique pourrait donc être envisagée dans le futur. En attendant, c'est donc à Hivaoa que le club concentre son activité principale. Un aéroclub bel et bien réveillé après 7 ans de mise en sommeil.
Les syndicats continuent de se préparer avant la fête du travail.
Oui, on vous parlait la semaine dernière de la CSTPFO. On évoque désormais le syndicat de la fonction publique, dont le secrétaire général Olivier Champion est de passage au Fénois. Il compte échanger avec le gouvernement à l'occasion du 1er mai. Alors, le SFP ne fait pas partie des 5 syndicats représentatifs au niveau de la Polynésie et n'a donc pas participé aux discussions tenues ces dernières semaines par les centrales du Fénois. Mais l'organisation, bien représentée dans de nombreux services et directions du pays, participera bien sûr à ce mercredi aux discussions avec les exécutif. Parmi les points noirs évoqués par le syndicat, beaucoup se situent à la direction de la santé ou au CHPF. On écoute les précisions d'Olivier Champion.
C'est quand même grave que ce soit dans les milieux de la santé que nous reviennent beaucoup de situations douloureuses pour les agents de la fonction publique. Les difficultés, elles sont souvent d'ordre managérial, c'est-à-dire qu'il y a une certaine violence dans la façon de gérer le personnel, ou un certain mépris, c'est-à-dire que les gens ne sont pas associés aux informations qui circulent, voilà, ils sont ignorés. Il y a des problématiques très réglementaires qui font en sorte que les gens se découragent parce que la réglementation ne reconnaît pas les carrières que peuvent exécuter les agents.
Olivier Champion qui évoquera aussi auprès des autorités sa volonté de voir une réforme complète du statut de la fonction publique.
On a un statut de la fonction publique qui date de 1995. Là, en 30 ans, la situation a évolué, mais les textes n'ont pas évolué. Ça fait déjà presque 6 ou 7 ans qu'on réclame une révolution, entre guillemets, sur ce statut de la fonction publique. Pas un toilettage, mais une révolution. Les gens sont montés en compétences. On a plein de jeunes Polynésiens qui sont très talentueux. On a des systèmes de recrutement qui leur permettent même pas d'accéder à la fonction publique parce que les concours n'ont pas lieu de manière régulière, parce que les grilles de rémunération ne sont pas intéressantes. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut se poser et clairement mettre tout sur la table.
Et le secrétaire général du SFP précise également qu'il a demandé à ce que le dialogue social se poursuive au-delà de la date du 1er mai.
À Punaoya, le site de l'ex Tahiti Village a été libéré et nettoyé.
Oui, après 4 ans de bataille judiciaire, Louis Vahan a finalement obtenu gain de cause dans l'affaire foncière qui l'oppose à Arifa Ano Aroita. L'homme qui revendiquait et occupait le terrain de l'ex Tahiti Village au PK15 a été expulsé le 15 avril. Et depuis, le bal des camions sur le terrain alimente toutes les rumeurs, mais le groupe Vahan assure qu'il ne s'agit que d'un nettoyage et d'un clôturage du site. Quant au projet Ocean Park du groupe City, le propriétaire le considère comme abandonné, les délais fixés étant dépassés.
Dans la rubrique Fait divers, un trentenaire a été mis en examen pour acte de barbarie sur sa compagne.
Oui, un homme de 32 ans a été interpellé jeudi, révèlent nos confrères de Tahiti Info, pour des violences très intenses sur sa compagne. La procureure de la République, Solène Bellawar, a apporté des précisions ce matin. Cet homme s'en est pris à sa compagne sur fond de jalousie. Après l'avoir frappé, il lui a tiré les cheveux avant de l'asperger d'essence. Le communiqué de la procureure de la République parle de violence d'une exceptionnelle intensité ayant duré plusieurs heures. En reprenant les propos de la victime qui a reçu une incapacité totale de travail de 30 jours, le mis en cause qui avait pris la fuite a finalement été interpellé par les gendarmes quelques heures après les faits. Condamné à de nombreuses reprises dans le passé pour des faits de vol aggravé ou des délits routiers, il a reconnu ses faits mais a nié avoir tenté de tuer sa femme avec qui il vit depuis maintenant 15 ans. Il a finalement été mis en examen pour actes de torture et de barbarie, viol par conjoint, violences aggravées par conjoint, violences, tentatives de destruction de biens par un moyen dangereux pour les personnes, menaces de mort par conjoint et rébellion. Il a cependant échappé au chef d'accusation de tentative de meurtre sur conjoint et a été placé en détention provisoire.
Direction Wainé désormais.
Oui, pour parler de l'incendie qui s'est déclaré à la décharge publique de Faré hier en début d'après-midi. Selon les pompiers, l'origine du feu n'est pas connue. Ils évoquent un embrasement volontaire, mais certains habitants de l'île pensent davantage pour un départ de feu accidentel qui serait certainement dû aux nombreux déchets inflammables stockés au dépotoir. D'après plusieurs témoins qui nous ont contactés, le site accessible au public est, je cite, un gros bazar. On y retrouverait toutes sortes d'ordures. Mais ce qui inquiète surtout, ce sont les déchets toxiques et inflammables comme les batteries qui seraient abandonnés sur le site par la population faute d'endroit où les déposer. À la mairie, on assure toutefois que la gestion des déchets de l'île, qui relève de la compétence de la communauté de communes, est bonne. Et ça même si l'on avoue qu'une partie des déchets du bac vert triés par les administrés finissent au dépotoir de Faré au lieu d'être rapatriés à Papeete. Cette même source à la mairie confesse aussi que depuis 6 mois, les cabanes à verre ne sont plus accessibles parce que trop de gens, je cite, trient mal. Contacté par téléphone pour apporter des précisions, le maire de la commune, Marcelin Lissant, est injoignable pour le moment. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'hier, les soldats du feu ont mis 3 bonnes heures avant de venir à bout de l'incendie.
Et tu nous présentes une association pour terminer.
Oui, on parle là de conditions animales avec l'association Plume, fondée par Léa et Gabriel, deux touristes métropolitains. Ils regroupent aujourd'hui une 30aine de bénévoles avec l'objectif d'offrir une seconde vie aux chiens abandonnés du Fénois. Une idée née après un séjour à Rangiroa, durant lequel le couple est tombé sous le charme d'un de ses nombreux animaux en détresse et a donc décidé de le ramener avec eux. Et ce qui n'était au départ qu'un voyage de noces tranquille s'est donc transformé en mission de sauvetage de Plume, le nouveau nom du chien en question. Écoutez le témoignage de Léna.
Je suis tombée sur le petit Plume au niveau de la passe de Tiputa. Je me suis vraiment mis en tête de le rapatrier. Alors ça a été hyper compliqué parce que du coup je connaissais